Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Effet Sonore sur CISM. Jean Arouzi avec vous, accompagné de Éliane Touin. Salut Éliane.
Allô, bon après-midi.
Bon après-midi. Aujourd'hui, encore une fois, on s'amuse à trouver des thématiques avec ce qu'on voit passer autour de nous. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la soirée des Oscars. Oui, on est une émission musicale, donc on va faire une émission cinéma, musique ensemble, la musique au cinéma. On va célébrer tous ensemble ici. La musique qui nous a fait triper au cinéma. Et pour ça...
T'as appelé l'épisode, genre? T'es toujours créatif.
24... la musique en 24 images secondes. Parce que au cinéma, c'est comme ça que ça marche. Il y a 24 images dans une seconde. Et pour avoir un show qui fait du sens avec nous, on a invité quelqu'un qui fait du sens avec le thème. On a invité quelqu'un qui tripe cinéma, un ami à moi, Miguel de Plante. Salut!
Allô, les amis! Merci de l'invitation.
Comment tu vas?
Hey, ça va bien, ça va bien. Hâte aux Oscars.
Oui.
Hâte de célébrer ça. Ben, tu sais, je suis pas un grand fan de gala là, de manière générale, mais il y a toujours quelque chose quand même. Puis surtout cette année, il y a beaucoup de controverses ou d'histoires avec ce qui va se passer aux Oscars. Qui va gagner, qui va pas gagner.
Ouais.
Souvent, c'est su d'avance, mais on dirait que cette année, il y a personne qui s'entend à savoir qui va gagner. Il y a comme des favoris, sauf que il n'y a pas rien de tranché.
Parce qu'on se fait toujours un peu avec les prix que les gens gagnent ailleurs. Tu sais, il y a eu les BAFTA, il y a eu le Golden Globes, le César, il y a aussi eu le SAG Awards sur Netflix. Tu sais, on se demande, OK, s'ils ont gagné là, ils vont-tu gagner la grande soirée des Oscars? Puis là, il y a les pronostics qui partent. Nous, la gang avec moi, avec qui je vais regarder ça ce soir, on a un pool, on s'amuse avec ça, essayer de voir qui a les bonnes réponses ou pas, qui a bien visé, en fait.
Ça rend l'expérience sûrement plus stimulante.
Ah, c'est
si
il
y a quelque chose à gagner, là, s'il y a un enjeu. Mais Miguel,
on t'a pas
trouvé dans la rue, c'est ça? Comment ça, c'est toi qui viens de parler de cinéma aujourd'hui?
Ouais, on va te présenter un peu mieux, là.
Ben oui.
Réalisateur, monteur.
J'ai étudié en cinéma là, il y a peut-être une dizaine d'années à l'UQAM, et depuis j'ai réalisé une couple de courts-métrages, monteur, beaucoup en télé. Oui. C'est là qu'on s'est rencontrés, Jean, mon beau Jean, en télé-réalité. Oui,
okay, je pensais que c'était mon beau Jean en sucre. Ils sont vraiment cute les deux depuis tantôt. Là.
On s'est rencontrés.
Les bros de cinéma.
Match made in heaven.
C'est ça. Puis on est deux tripeux de cinéma.
Exact.
On se dit pourquoi pas parler de musique en même temps. Parce que beaucoup, tu sais, la musique au cinéma est super importante. Pas dans tous les films, il y a des films qui n'en ont aucune. Tu sais, il y en a des films où ils sont décidés carrément d'en mettre. Tu sais, dans Les 7 jours du Talion, je pense qu'il n'y a aucune toune. Ça, c'est un exemple qui vient de me popper en tête, mais il y en a sûrement plein d'autres.
C'est plus l'exception que...
Tu parles tout le temps des 7 jours du Talion.
Oui, je parle tout le temps de ça.
Mais c'est ça, c'est plus l'exception que la règle, parce que normalement, on met de la musique. Ouais. Puis moi, je suis avec vous deux, là, les deux cinéphiles, et puis on va parler de ça sera quoi la musique dans les films. Mais pour commencer, est-ce que vous savez c'est quoi la première fonction que ça a eue? Pourquoi on a mis de la musique au début?
Est-ce que je peux m'essayer avec l'idée du Mickey Mousing, qui est un peu de décrire à la musique ce que les actions, tout ce que les gens faisaient, mettons un petit bonhomme qui marche, puis là, on avait une petite clave, des choses comme ça. Là.
Ça, c'est bon, c'est un peu plus tard.
Cinéma muet d'abord.
Mm-hmm.
Non?
Ben oui, à peu près. Regarde, je sais pas exactement dans quelle époque, mais ce que j'ai pu découvrir en m'informant sur le sujet, c'est qu'au départ, on mettait de la musique pour camoufler les bruits des projecteurs, puis de tout ce qu'on avait de machinerie pour faire du cinéma qui était super bruyant. Fait qu'il y avait un pianiste qui était là pour masquer ça. Ça, c'est la première fonction. Mais là, aujourd'hui, ça ressemble plus à ce que tu viens de décrire. Fait que d'aller montrer une action, d'aller mettre l'accent sur un certain mouvement du personnage, il y en a plein d'autres, mais je trouve que
ça, il peut avoir une fonction qui est très, très... direct, là, tu sais, quasiment banane. Le petit bonhomme, il marche, il va avoir un petit bruit de marche. Mais des fois, ça va être aussi de montrer un ton ou une énergie quelconque qu'on veut mettre dans le film. Mais c'est vraiment intéressant, l'idée de... C'était pour camoufler le projecteur dans la salle parce que c'était super irritant puis énervant.
Il devait faire beaucoup plus de bruit, j'imagine, à l'époque. C'est peut-être pour ça. Parce que là, on l'entend pas, les projecteurs, tu sais. Mais c'est pas des... Tu vas me dire, c'est pas des projecteurs.
Mais la musique est aussi ajoutée souvent après, pas pendant que tu filmes, tu sais.
Non,
sauf... vous le savez, je parle à deux monteurs.
OK, fait que la musique, dans le fond, ça se passe après. Moi, je pensais qu'ils faisaient venir un band.
Qui
ça, c'était complexe,
les...
là. Oui. C'est ça, un peu comme un opéra, là. Tu vas voir ça, puis t'as une trappe en dessous, là.
Oui, comme... ben justement, aux Oscars, il y a une trappe en dessous quand ils jouent la musique pour dire, bon, ben t'as assez parlé, faut que tu t'en ailles. Tu sais, là, la musique de l'orchestre des Oscars sont tout le temps...
Donc aujourd'hui, on fait un spécial où on parle de la musique de trappe d'Oscar pendant une heure.
Oui. c'est bon.
Ah, super intéressant, ça.
Oui, puis ouais, ben, sinon, on pourrait parler des fonctions, mais on les sait. Moi, ce qui m'intéresse plus de savoir, c'est quoi? Puis je sais qu'on avait parlé dans le groupe de discussion, Miguel, mais pour toi, c'est quand que la musique réussit à bien rendre le cinéma? C'est qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, puis quand ça fonctionne pas? Puis vous, je dis ça à vous deux, là, deux cinéphiles, deux monteurs.
Oui, puis à toi aussi.
Parce que des fois, c'est...
On va dire souvent qu'on est cinéphile puis monteur.
Oui.
Non, mais il y a quelque chose qui est super intéressant avec la musique, puis qui se rapporte un peu à ce que tu exprimes. Vous êtes deux cinéphiles, oui, mais la musique, c'est quelque chose de tellement universel. Puis je trouve qu'en cinéma, c'est une des manières d'aller rejoindre son monde le plus facilement, d'aller donner une émotion. Puis même que des fois, la musique va souvent être trop directive. Là, parfois, on va voir un film, genre un film d'amour, puis là, ça devient super pompeux, puis c'est quasiment too much.
Ouais.
Mais des fois, quand c'est bien dosé ou quand c'est bien joué, puis là, d'un coup, ça te rentre dedans, là, une bonne musique, mais... ça a vraiment le même effet qu'un bon montage ou une bonne réalisation. C'est de, tu sais, le cinéma, c'est l'art de la manipulation, quelque part, là. Manipuler son spectateur, manipuler autant dans le montage réel, tout ça, mais la musique, ça en fait partie énormément.
Ben oui, clairement.
Fait que des fois, c'est juste pour avoir, mettons, tu sais, le meilleur exemple, c'est un film d'horreur, enlève la musique stridente de violon qui est sur le shake. T'auras
si,
pas
si,
peur.
Si tu veux faire, ouais, si tu veux créer une tension ou un. Des jump scares, c'est souvent le son puis la musique aussi qui est là, tu sais.
Mais oui, c'est ça. Puis
tu auras moins peur, t'enlèves le son.
Mais voilà, j'imagine. Fait que oui, tu sais, je pense que ça a une fonction super directive. Puis des fois, ça peut être négatif quand c'est mal fait, mais dans les exemples qu'on va donner tout à l'heure, c'est des fonctions directives qui, pour moi, sont essentielles, tu sais.
Vous n'allez pas dire tous les échecs, là, quand on non, a parlé. Ben, on va pas dire quand ça marche pas, non.
Non, mais mettons, tu sais, je sais que j'ai pleuré quand Mufasa meurt dans Le Roi Lion, spoiler, désolé, mais je sais que ce qui m'a marqué, la musique aujourd'hui, mais je m'en rappelle encore du thème de c'est Hans Zimmer, je pense, qui composait Le Roi Lion.
Oui.
Mais c'est ça, ce thème-là me donne encore de l'émotion aujourd'hui, oui, parce que j'associe ça à un événement tragique dans un film, mais...
Mais les films d'animation, c'est les meilleurs dans la musique. Ben, pas les meilleurs. Je dirais pas impérativement que les meilleurs.
On n'en parle pas d'un aujourd'hui. On va peut-être passer à côté de ça.
Ouais, mais.
C'est pour ça qu'on a parlé du Roi Lion. C'est fait.
Parce que des films d'animation puis la musique, on dirait que c'est un mélange parfait. Là. C'est un mariage de deux trucs qui fonctionnent super bien. J'ai rarement vu des films d'animation qui ont décidé de pas focusser sur la musique aussi. C'est rare, en fait. Je sais pas s'il y a des exemples, il y en a sûrement.
Tout est possible avec la musique. Hein, tu sais, comme tu vas avoir un film, puis des fois, tu as des limitations qui sont techniques au niveau du tournage, mais la musique peut t'amener n'importe où avec une note. Puis c'est ça. C'est de la belle manipulation qu'on aime.
Mm-hmm. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand c'est trop appuyé. Voilà. Que c'est censé être triste, ben on va te mettre la grosse chanson triste à laquelle tu t'attends. Ouais, le gros violon.
Ouais.
Ça m'agace. Ou quand il y en a trop aussi. T'sais, on est des grands mélomanes, tout le monde dit, mais je pense à genre pas encore un film d'ado. Ou tu sais, genre ces films-là, là, Folie de graduation. Back à back, okay, à chaque
mais ça,
scène.
Mais ça, c'est pas de la c'est pas du original score, par contre. C'est soundtrack de... T'as mis une playlist de tes tunes préférées.
Ben, on va aussi parler de ces personnes-là, oui, qui mettent, qui créent pas des chansons, mais qui sont capables de bien harmoniser une playlist à mettre dans leur film. Ouais. Mais, tu sais, je trouve que des fois, mais ça marque aussi, ça fit avec l'univers des films d'ados, mais je trouve que des fois, là,
mais en même
quand
temps,
c'est appuyé.
En même temps, tu viens de me nommer ces films-là, puis là, tout de suite, j'ai du Sum 41 dans la tête, tu sais. Fait que ça va avec, tu sais. On s'entend que ça colle beaucoup au style de film que tu
fais. À vos marques partées, là, que là, on va avoir.
Oui, André Waters.
C'est ça.
Simple Plan, j'espère.
Ouais.
Non, mais tu sais, on dirait que je peux faire un pont avec ce que Jean et moi, on fait comme travail. Tu sais, on monte sur Big Brother en ce moment, puis. T'sais, j'y pensais en m'en venant, puis la musique qu'on va mettre là-dessus, c'est exactement vrai. L'exemple de trop appuyer pour donner une émotion. Là, t'sais, là mettons, une des personnes dans la télé-réalité va se fâcher, mais on va mettre un gros « puis c'est tout le temps appuyé, puis il n'y a jamais de silence. Puis t'sais, pour moi, une bonne soundtrack, c'est une soundtrack qui se dose, puis qui arrive au bon moment, puis qui sait se calmer les nerfs un petit peu de temps en temps. Là.
C'est une différence de produit aussi, parce que on fait pas du...
Ben, entre Folie de graduation puis Big Brother, OD, là, comme Occupation 2, parce que je sais que c'est des projets sur lesquels
tu
vous avez travaillé.
Là, tu marques un bon point.
Pas tant de différence. Mais là-dessus, peut-être qu'on peut aller direct à une trame sonore originale.
Le premier exemple qu'on veut donner, c'est quoi, donc?
Giorgio.
Ben oui, ben c'est ça, en fait. Giorgio Moroder, qui est un des grands compositeurs de musique électronique là, des années 70-80, qui a collaboré avec Daft Punk, qui a collaboré avec tout plein d'artistes, et puis qui est aussi un compositeur de films que je trouve exceptionnel et qui nous a livré un de mes films marquants de ma jeunesse, qui est L'Histoire sans fin. J'ai adoré l'histoire sans fin et oui. C'est grand, en grande partie, ça je l'ai réalisé plus tard, en grande partie grâce à sa musique puis à son univers sonore. Donc, Ivory Tower de Giorgio Moroder. Donc,
qu'est-ce qui va nous servir pour mettre la table sur notre prochain sujet au retour qui va être sur les bandes originales de films?
Fait qu'on se fait plaisir puis on écoute un peu de Giorgio Moroder puis du Neverending Story, l'histoire sans fin.
Yeah!
À CISM. C'est tellement bon.
Hey, moi, là, pour vrai, j'ai des frissons. Là. T'sais, c'est sûr que c'est très relié à l'enfance. Puis il y a quelque chose de. Avec la musique en général, mais la musique de film. Tu sais, je suis un grand cinéphile. J'ai écouté beaucoup de films dans ma jeunesse. Puis c'est les musiques de ce film-là. On parlait du Roi Lion, on parle de l'Histoire sans fin. C'est mes deux films d'enfance. Puis ce que je reconnais en premier lieu, c'est la musique. T'sais.
Ouais.
Puis particulièrement dans celui-là, tu sais, on voit que c'est un vibe. Là. C'est pas une musique qui évolue énormément. C'est juste. Ça met dans un état d'esprit.
Ouais.
Tu sais, puis Moroder, ça va être ça dans tous ses soundtracks. T'sais, c'est lui qui a fait aussi la soundtrack de Scarface. Il a fait avec Daft Punk. Je sais pas s'il collaborait à ce moment-là, mais tu sais, Daft Punk est un peu dans le même style qu'ils ont fait Tron.
Oui.
Tous ces soundtracks instrumentales-là, plus électro. Puis plus récemment, Trent Reznor dans Challenger, tu sais, qui est un autre soundtrack électro. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand on parle de soundtrack de film, on a souvent tendance à aller imaginer les gros violons puis l'orchestration et tout. Mais il y a quand même ces styles électro-là qui donnent un ton particulier au film puis qui peuvent t'amener dans un autre univers musical tout en étant aussi valide que 160 musiciens, musiciennes qui font des arpèges. Là.
Ouais.
Oui, c'est vrai qu'il y a tout ce pan-là, puis on va parler d'autres compositeurs, qui n'est pas de la musique style classique. Là, mm-hmm. Qui est ça peut être de la musique pop, peut être de la musique électro, comme tu l'as mentionné. Là, puis c'est des bonnes tunes qui pourraient jouer à la radio aussi. Il y avait des paroles, oh, ouais. Que les compositions, les mélodies sont bonnes. Bien, merci pour ta découverte. Moi, je n'ai pas vu ce film-là.
Je sais pas à quel point ça vieillit bien. Là, à quelque part, c'est un grand film d'enfance.
C'est culte, là. C'est un film épique.
Film de marionnette avec ce genre de musique. Là, c'est un univers décalé, puis la musique amène ça, ce côté fantastique-là. Puis... Oh non, moi, c'est comme la toune qu'on entendait, c'est quand il s'approche du grand château dans les nuages, là, à vol de dragon. Ça fait, puis...
c'est de la musique qui t'aide à te transporter dans d'un monde fantastique aussi. C'est pas de la musique que... T'sais, on dirait que l'électronique fait souvent rêver, puis moi, c'est ça, c'est comme tu t'emportes dans une dimension qui est loin de ce que tu connais autour de toi. T'sais. Fait que là, au moins... Le transport vers le fantastique, ça marche aussi.
Mais tu viens de mentionner une des fonctions principales de la musique.
Ah oui?
Créer une atmosphère, créer un
corps. 10 points pour Jean.
Fait nice. Que de créer une immersion. Puis après, ça te ramène dans le film. Tu sens que tu es à voir d'image, tu mets la musique. Puis ça ressemble... Est-ce que vous en avez parlé un peu pendant que ça jouait, mais est-ce que c'est pas lui qui a composé Stranger Things, mais c'en est... La musique de Stranger Things s'en est inspirée?
Oui, bien, c'est sûr que Stranger Things est vraiment une esthétique sonore et visuelle qui est inspirée des années 70-80. Puis, particulièrement, l'histoire sans fin, il y a dans une des saisons de Stranger Things.
Je pense que c'est la troisième, ça où ils se mettent à chanter.
Ouais, le thème de l'histoire sans fin de Limahl, qui est c'est ça, là, que je vais pas me mettre à chanter, sinon vous allez perdre des codes d'écoute assez rapidement. Mais donc, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, je trouve, dans ce film-là, puis dans beaucoup d'autres films, c'est quand on se met à combiner la musique originale à des chansons déjà existantes ou qui vont être composées pour le film, mais que tout d'un coup, tu te mets à avoir un verre d'oreille qui peut passer à la radio, puis qui est combiné à quelque chose.
Exact.
Tu sais, un meilleur exemple aussi, bon, dans Titanic, My Heart Will Go On. Tu sais, comme une toune qui va être associée à un film directement, dans son vibe, son énergie. Puis t'écoutes le film, puis il n'y a pas nécessairement dans le film, mais c'est comme une pièce compagnon, là, tu sais.
Oui.
Qui annonce quelque chose.
Exact.
Puis je me rendais compte aussi, puis ça, c'est pas des fonctions. C'est plus des fonctions du cinéma, mais qui est aussi une belle entrée en matière pour la musique, tu sais, pour les personnes peut-être moins mélomanes qui sont moins portées à aller découvrir puis aller fouiller dans les discographies. Tu sais, puis là, en parlant de Stranger Things, Metallica, c'est laquelle qui a joué, qui a joué dans Stranger Things, là.
Ouais.
Aussi, je pense à Kate Bush, que grâce à Stranger Things, elle a reconnu.
Kate Bush, c'est la première fois qu'elle a été numéro un au Billboard de sa carrière à cause de Stranger Things, en fait. C'est quand même flyé qu'elle soit.
Mais c'est une artiste émergente, hein, qui.
Oui, on pourrait la mettre à CISM, c'est ça.
Ben, peut-être à cause de Stranger Things, là, on peut plus la mettre à CISM.
Non, c'est ça, non.
Ça se peut, mais bref, tu sais, avec grâce au cinéma, puis il y a d'autres, tu sais, il y a des réalisateurs qui sont reconnus là, pour leur goût indie, on va en parler un peu plus tard, mais ça amène un plus large public à des chansons qui peut-être avant n'auraient pas été connues ou beaucoup moins, tu sais, qui restent une niche, fait que ça a un bon pouvoir de découvrabilité aussi.
Oui, vraiment, ou de redécouvrabilité, parce qu'on peut réentendre une toune qu'on connaissait, mais dans un contexte qui, là, il va être super. Tu sais, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais tu sais, ben, je sais que Tarantino va faire de ce genre de trucs-là et tout, mais on en parlera tantôt des réals qui utilisent des tunes qui existent déjà. Okay. Mais effectivement, très bon point.
Oui, tu peux redécouvrir, c'est vrai, une chanson que tu connais, mais associée à une scène ou un certain plan, ça offre toute une autre dimension, puis là, tu commences à triper dessus.
Exact.
Puis là, on va pas parler de musique de film sans parler de Monsieur Morricone.
Ben c'est ça. Là, c'est sûr que là, après ça, tu sais, je voulais arriver ici avec peut-être des compositeurs, compositrices que vous connaissez moins, mais Morricone, ça reste un incontournable, puis on peut pas le passer sous silence. Puis surtout en opposition avec Moroder, que lui, électronique et tout ça. Là, on parlait de musique orchestrale, puis tantôt, tu parlais de cette idée-là de, des fois, trop appuyer une émotion. Mais mon prochain exemple, peut-être que tu l'aimeras moins dans cette mesure-là, parce que c'est tiré de Cinema Paradiso, qui est un de mes films préférés. Italien merveilleux sur l'amour, sur la nostalgie, sur le retour à la famille. C'est un film qui est chargé émotivement, très chargé émotivement, de par son histoire, mais surtout, mais en fait, en grande partie à cause de sa musique, de Morricone, qui devait, dans sa composition, justement, présenter... C'est une grande histoire d'amour, là. C'est sur un petit... C'est sur un homme, en fait, qui a passé sa vie là, à travailler dans un cinéma avec un vieil homme là, qui l'a accompagné toute sa vie. Puis là, il retourne dans son village natal. Tout a changé. Tout est différent. Puis il se remémore tout ça avec plein de nostalgie. Et puis le thème d'amour, Love Theme, tout simplement, de... ben oui, version 2, important de mentionner, de ce film-là, en fait, c'est que... Pourquoi je voulais l'amener, c'est que ça amène beaucoup l'idée des leitmotivs puis des thèmes dans les films en musique qui sont super importants. T'sais, vous allez voir le thème de Darth Vader dans Star Wars. T'sais, ils vont le remettre dans une série, m'amener dans un épisode, ils remettent un petit bout de thème, puis là, on sait c'est Vader. Mais ces leitmotivs musicaux-là sont d'une grande importance. Puis au sein d'un même film, moi, ça me fait triper quand t'arrives à la fin du film, puis que là, il y a un thème qui revient ou qui va être un petit peu plus amplifié qu'il était au départ, c'est qu'il va juste évoluer un peu, puis il prend toute son ampleur. Donc, le thème d'amour de Cinema Paradiso.
Version 2.
Qui est considéré comme un des plus grands films du cinéma, qui est souvent dans les top 10.
Pour moi, c'est un grand film, puis c'est aussi la plus grande soundtrack là, pour moi. Et en grande partie à cause de ce thème-là, puis là, c'est la version vers la fin du film, quand... tout le thème qu'on va entendre, là, on l'entend au violon, on l'entend au hautbois, on l'entend en plein instrument dans cette version-là. Mais c'est comme le point culminant du film où on a tout eu ça au préalable, puis là, on revient. Là, j'en parle avec émotion, on l'écoute, Colin.
Ça donne le goût de l'écouter, on écoute la tune, puis ça donne envie d'aller revoir le film aussi.
S'il vous plaît.
On y va avec Love Theme version 2.
Oh yeah!
De Cinema Paradiso à CISM. Thank you.
On a eu le droit à du Air Chef de Chris,
Air
à du Air Piano.
Air Piano.
Ah, quasiment des larmes.
Oui, incarné par Miguel. Là.
Non, mais vraiment, puis tu sais, puis je niaisais même pas. Là, la toune joue, puis en plus, vous avez des bons écouteurs ici, là. Puis Colin, mais c'est que ça a vraiment une fonction reliée à la mémoire, là, la musique, on sait bien, mais
oui.
Surtout dans les films, puis dans ces moments marquants-là, quand t'aimes le cinéma à ce point-là, c'est sûr que ça aide, mais Colin, là, je revois les scènes, je revois les... Puis c'est ça qui marque dans un thème de film. Tu sais, tu vas entendre Le Seigneur des Anneaux. Ben là, tu te remets dans cet univers-là, tu sais.
Ça, oui.
Tandis que c'est ça. Fait que là, t'entends cette musique-là d'un film qui t'a marqué, puis ça te remet dans cette émotion-là, puis c'est tellement magnifiquement composé.
Puis d'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil au Québec, il y a Martin Léon, qui est un grand compositeur de musique de film ici. Puis il a été un élève, je l'ai validé, il a été un élève de Ennio Morricone. Il a étudié à Sienne, en Italie, à ses côtés. Puis, c'est pas vraiment connu. C'est lui qui a fait notamment la playlist, j'allais dire la musique originale du film Monsieur Lazare, puis beaucoup d'autres, là. Mais c'est comme un petit bijou au Québec qu'on a pour les films Martin Léon.
Puis c'est pas étonnant
Formé par le grand.
Exactement, que Morricone soit un mentor pour plusieurs. Tu sais, il y a un documentaire qui est sorti d'ailleurs sur lui qui est pas formellement super intéressant, mais qu'on peut avoir toute sa musicographie. Fait que
mais
ça
je me trompe
vraiment
tout, il a gagné un Oscar très tard dans sa vie.
Oui, c'est vrai.
Ouais, il était 11h30.
Oui. 11h30.
Du soir, là, c'était tard.
C'est tard dans une vie.
Pour gagner un Oscar, pour être couché, de brosser les dents.
C'est ça, t'as raison.
Puis on parle beaucoup de Johnny Williams, on parle beaucoup aussi de Hans Zimmer, mais peut-être pas assez de Ennio Morricone. Fait que c'était assez
essentiel que ça se passe. Parce qu'on dirait qu'on l'associe tout le temps à The Good, The Bad and The Ugly, tu sais. Tu nommes son nom, puis on dirait que tout le monde pense au film western, mais il n'a pas fait juste ça, tu sais.
Ouais, pour moi, il a fait les meilleurs thèmes d'amour.
Ah. Mais regarde, je pense qu'il a gagné 6 fois, de 1979 à 2016. Fait que c'est pas lui, ça doit être un autre. Pour Best Original Score.
Je me trompe d'abord.
Ouais, ça doit être. Ça arrive souvent. Là,
je me trompe peut-être avec l'heure, il était juste peut-être 11h30, t'as raison.
Ouais, peut-être c'est ça, tu voulais dire. C'est même pas une blague. Et là, on passe à d'autres compositeurs chouchous. Je peux peut-être aller avec.
Oui, vas-y.
Un de mes préfs, qui est John Bryan. Moi, je l'ai découvert grâce à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Fait que c'est lui qui avait fait la playlist. Puis moi, j'étais en plein essor d'amour.
La playlist?
Pardon?
Il a fait la playlist?
Ben oui, on peut le dire de même. Il a composé la trame sonore.
Je savais pas.
Tous les mots sont valides ici, genre.
C'est ça,
pardon.
Tu m'as coupé là, dans mon élan. Oh. Franchement.
Mais John Bryan, oui.
Oui, John Bryan, j'y reviens. J'y reviens. C'est lui qui a composé la chanson originale. La chanson, mais la trame sonore aussi qu'on pourrait dire, ou la playlist, c'est selon. Puis, c'est ça, moi, je l'écoutais, j'ai tombé comme j'étais vraiment dans une grosse phase cinéma en fin primaire, début de secondaire, parce que j'avais participé à un camp cinéma de 3 semaines à Ville de Repentigny. C'était vraiment le fun.
Wow.
J'ai été réalisatrice.
Mais là, tu disais qu'il y avait juste lui comme réalisateur. C'est pas vrai, autour de la table?
Non, je suis pas sûre que ça se trouve sur YouTube. C'est sur une vidéo cassette chez nous, sûrement. Mais c'était super le fun, pour vrai. Des belles initiatives, ça. 3 semaines, t'avais le temps quand même de faire un film. Là.
Est-ce que vous avez un Patreon?
Pas encore.
CSM
a un Patreon,
sur le Patreon de CSM.
Oui, bon, parfait.
Peut-être pour le 100e épisode, on fait quelque chose, un petit cadeau. Je suis pas sûre. Là, vous allez dire, non, il enlève son titre de réalisateur. Mais je suis pas réalisatrice. Mais bref, je tripais sur le cinéma à cette époque-là. Puis, mon rêve, c'était de devenir directrice musicale de film. Parce que j'aimais aussi la musique. Puis, il y a eu ce film-là qui est allé vraiment confirmer cet intérêt-là.
Eternal Sunshine.
Ouais. Puis, la musique aussi. Puis, après ça, je me suis intéressée aux autres, musique qu'il avait composée. C'est tout des bons films. Il a fait Magnolia. C'est lui qui l'a fait. Punch Drunk Love. Fait qu'il est assez versatile. Il est pas juste dans les films indie.
Punch Drunk Love.
OK.
Avez-vous vu Synecdoche New York, film de Charlie Kaufman? Celui qui l'a fait, moi, je ne le connaissais pas. Puis il a aussi fait Lady Bird. Bref, il est bon pour dépeindre une scène. Surtout dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la mélancolie, l'espèce d'incertitude. C'est un piano qui est très mélancolique. Puis moi, la chanson que je vais vous mettre, elle figure dans mes top 20 chansons préférées au monde. Là. Puis
c'est
Oui, au monde.
Oh my God.
Mais dans mon top 20, ça s'appelle Besties. C'est ma playlist sur Spotify. Puis elle est dessus, puis elle est là pour y rester. Des fois, il y a des trucs qui passent, qui reviennent, mais Row... Qui est sur la trame sonore, c'est vraiment une de mes pistes préférées.
On va aller écouter ça. Voici Row, tiré de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est parti. Ça, c'était la tune qui s'appelait Row.
Exact. Une instrumentation onirique, éthérée, parfaite pour accompagner les séquences plus romantiques du film. Est-ce que vous l'avez vu, ce film-là?
Oui.
De Michel Gondry, je l'ai pas
vu. Oui. Sauf que, Colin, c'est le fun parce que tu m'en parlais tout à l'heure, puis la soundtrack, je me souvenais pas. Là, les premières notes sont arrivées, puis je dis, ah ben oui, ça, c'est ce moment-là. Mais c'est ça que ça fait, la musique de film. Oui, t'as raison. Aussi.
Mais ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Je l'avais loué en DVD.
C'est pas juste du piano. Il y a des pièces avec plus d'instrumentation. Mm-hmm. Là, puis il y en a qui sont un petit peu plus rapides. Mais elle est toute excitée dans les basses sur le piano. Moi, je la trouve magnifique.
La simplicité, des fois. Là.
Mm. J'avais loué ça en DVD. Puis on l'avait regardé en famille. Mes parents ne comprenaient rien parce que ils sont pas super... ils ont besoin de sous-titres quand c'est en anglais. Mais moi, je tripais, puis il fallait que j'explique quand même pas mal souvent, parce que c'est quand même complexe.
La trame narrative est un peu difficile. Oui. Il faut que tu sois attentif quand même. Il faut se rappeler qu'il y a Kirsten Dunst là-dedans.
Puis Jim Carrey.
Jim Carrey avec Kate Winslet. Là, oui.
Kirsten Dunst, c'est vrai, là.
Ouais. Puis l'autre, c'est quoi? Ruffalo, qui fait le scientifique fou.
Pas Mark?
Mark, oui, c'est ça. Ouais, ah ouais? C'est Mark Ruffalo. Mark Ruffalo puis Kirsten Dunst. The Hulk était là. Les deux qui observent l'opération qui est faite dans leur cerveau. Il n'y a pas Elijah Wood? Oui, peut-être, ça se pourrait.
C'est peut-être un effet Mandela que j'ai quand je vois Elijah Wood partout. Là,
mais... J'ai un flash. Moi, je suis en train d'écouter Severance, puis tu sais, il y a des liens quand même. Hein?
On peut-tu faire un pont sur Severance et parler du thème de Severance? On parle de musique. Là.
C'est très, très beau.
On parle de musique qui exprime quelque chose par rapport à l'œuvre. Puis je voyais une vidéo hier qui analysait le thème de Severance, puis tous les accords dissonants, puis les tritons qui sont partout. Les tritons qui sont les accords les plus dissonants ever. Là. Je ne pourrais pas dire techniquement c'est lesquels, mais fait que tu as des accords qui représentent les innis, c'est-à-dire les personnes qui sont dans l'univers de Severance.
Ooh!
Bon, il me met ça en plus. Puis là, comme tu as un accord qui est majeur, qui va bien, puis un accord qui est dissonant tout le temps pour représenter les deux variations des personnages. Puis je trouve ça le fou.
Il y a tellement de vidéos explicatives, tu sais, pour chaque mini-seconde de Severance. Moi, je me perds là-dedans. Là.
C'est ce qui témoigne d'une qualité d'une œuvre. C'est quand on peut l'analyser.
Ce que j'aime de Severance, c'est qu'ils osent encore faire des titres, des title screens, des intros. Je commence à être tanné que les séries télé skip les vidéos d'ouverture, les intros, les génériques. Eux, leur générique est tellement magnifique. Là.
Puis il a été analysé aussi probablement 60 000 fois parce que apparemment ça annonce plein d'éléments qu'on voit.
À chaque épisode, tu revois le title puis tu comprends une nouvelle chose dedans. Puis c'est ce qui est...
Puis déjà que...
Puis on a vu celui de vendredi passé puis on va rien dire.
Merci.
Ah, je suis pas à jour.
OK. Ah, t'es pas... OK. Hey, moi, la minute que ça sort, là, c'est pas long.
Failli, hein?
Oui, c'est ça.
Oh, ça me dérange pas.
Mais bon, c'était la parenthèse Severance qui amène à une parenthèse Succession, parce que ça aussi, c'est une maudite bonne...
Je pensais que c'était peut-être le même, parce que je savais que tu voulais en parler, ça aurait pu, là.
Je parle de Succession
tous les jours
de ma vie, là. Mais... Ah, c'est... Il l'a.
Oui, je l'ai. Hey, j'ai accès à ça, j'ai accès à plein de tunes. Mais ça, j'ai tellement trippé sur ce tune-là que j'ai découvert Succession pendant la pandémie, puis je l'ai appris au piano tellement que je trippe sur ce tune-là. Fait que ça aussi, c'est une très bonne série que si vous n'avez pas vu, je vous suggère fortement.
Tout à fait.
Ça, c'est une série à personnages. Si tu cherches des personnages là, forts, très bien écrits,
garoche-toi là-dessus. Intrigue, c'est une série à tout.
Tu l'as-tu vu, toi, Eliane?
Ben oui. J'ai adoré. Moi, j'écoutais le générique du début. Ça, je le fais au complet pour écouter la chanson.
Ouais, hein.
Là, je comprends.
Je me tannais pas. Tu sais, c'est ça, l'image défilait. Puis je faisais pas skip intro.
Non, on peut pas. C'est une œuvre en soi. Tu sais.
Exact.
Chaque personnage a son thème dans cette série-là aussi. Puis là, quand on arrive dans la saison finale, les thèmes de tout le monde, un peu comme je parlais tantôt des leitmotivs, ils sont tous ramenés, mais orchestrés différemment, puis c'est majestueux, en tout cas.
Puis l'autre moment marquant, c'est le rap, le hip-hop de Kendall Roy. J'y vais passer. Pense à l'histoire.
Ça, c'est un beau moment cringe.
Ouais, mais un très beau moment.
Très beau moment. Mais il l'a bien fait, il était un beau rapper.
Honnêtement, son delivery est bon, là.
Ouais.
S'éternisera pas sur les séries parce qu'on pourrait continuer avec The White Lotus, mais bon, on va rester là-dessus. Parce que White Lotus. Ah, mais
dernier terme est poche.
Le nouveau générique a changé. Ah ouais, tu trouves?
Ah, que je l'aime pas non plus.
Oh, pourtant, OK.
Mais là, dans le dernier épisode, on a eu un.
Ah oui?
Oui, c'est vrai. Pendant.
Puis là, il va revenir.
OK.
Spoiler alert.
OK. Fait que
John Bryan.
Oui. C'est ça.
Ah, on ben parlait, non, t'as John Bryan, okay. Oui, on a terminé le tour. Okay, on a fait le tour. Là, on va passer à un autre qui était dans mes prefs.
Moi, j'ai pris la balle au bon parce que je voulais parler de Trent Reznor et Atticus Ross qui ont fait le. En fait, moi, j'étais allé voir le film Challengers parce que, first, je trippe sur le tennis et je voulais voir un bon film de tennis. Puis, je me suis fié aux critiques, puis je me suis fié à la le hype autour du film. Je me suis dit, bon, m'aller le voir parce que ça me tente.
Ouais.
Puis, apparemment, Trent Reznor et Atticus Ross font la musique. Donc, ça doit être bon. Mais quand je me suis assis dans le cinéma, je savais pas que ça allait être si bon que ça.
Ah, la musique est hot, là.
Ça, c'est un film où la musique prend de la place beaucoup, mais
ouais.
C'est volontairement, tu sais, c'est enveloppant. C'est là tout le temps. Tantôt, tu nommais des exemples de musique que, parfois, c'est bon quand ça arrive subtilement pour aider la scène.
Ah, non,
mais
là,
ça, c'est genre, ils sont en train de parler dans un appartement, mais la musique, gros club. Mais ils sont juste en train de parler. Mais c'est du gros club que
ça fait. Donne une couleur,
ouais.
Là.
Ah, c'est, bon.
C'est quasiment un personnage. Parce qu'il y a une conversation normale. Puis là, tu sens que c'est tendu. Puis bang! Là, ça arrive direct. Ou des matchs de tennis avec une grosse hausse comme ça. Là, que ça commence le film, ça donne vraiment le ton.
Ça témoigne de leur état d'esprit. Tu sais, c'est que c'est une vie de party. Ben, pas une vie de party, de débauche.
De débauche de...
Mais il y a un peu de ça. Là, c'est une musique intense. Là, ils vivent intensément. Là, puis,
je suis quand même un peu déçu que Trent Reznor soit pas nommé aux Oscars ce soir parce que je trouvais que sa soundtrack est magnifique. Mais il a quand même gagné Golden Globes.
Mais il a gagné, je pense, avec The Social Network, un Oscar, le film.
C'était
Facebook,
ma question. En fait,
là.
Moi, je connaissais pas cet artiste-là. Donc, c'est un compositeur.
C'est Nine Inch Nails.
Ah, mais ça m'étonne pas.
Il y a un
avec
projet électro tout seul, puis qui a fait aussi quelques.
C'est vrai, il y avait un projet avec sa femme aussi. Mais Trent Reznor, maintenant, il est pas mal devenu... en tout cas, il commence à exceller en cinéma. Là. Fait que c'est pour ça que... Il va quand même lancer un album avec Nine Inch Nails cette année. Je suis très curieux de voir ça va être comment.
Ah ouais, hein?
Ouais, il revient.
Ils viennent pas à Toronto.
By the way,
non, ils viennent pas à Montréal.
Oui, ils viennent à Toronto. Nine Inch Nails vont faire la nouvelle soundtrack de Tron.
Ah oui, c'est
le nouveau Tron qui s'en vient, c'est Nine Inch Nails et non pas Trent Reznor.
Ouais, c'est
Nine
ça.
Inch Nails, fait que ça peut être plus... je sais
pas
à quoi
ça,
m'attendre.
Tron?
Tron, c'est un film, ça a été adapté plusieurs fois, dont une fois avec la musique de Daft Punk.
Oui.
Donc, tu sais, c'est très électro. Là. C'est dans un univers cybernétique là, où les gens rentrent dans leur ordinateur. Là. Fait que c'est très, très 2.0. Là.
Oui. C'est des animés?
Non.
Non, c'est souvent c'est des live action, donc c'est filmé, mais on entre vraiment dans un univers de néon et de chiffres binaires, là, 0, 1, 1, 1, 0. Je sais pas comment le décrire.
C'est pas Jeff Bridges qui joue dedans? C'est-tu lui? C'était-tu Jeff Bridges? Ou
je sais pas. Je suis pas très bon dans les acteurs.
Okay.
C'est une affaire de geek, mettons, oui, dans la mesure où c'est très Internet, là, tu sais, au... Le
mais c'est
jeu
vidéo. C'est jeu vidéo.
Ah,
pas mal.
OK, bon, OK. Ça se prête.
Sauf que ça se prête beaucoup à la musique de Trent Reznor.
Oui.
On dirait que Nine Inch Nails me.
Mais il y aura
me
un peu de.
Curieux.
Mais je pense qu'il
voir.
Va avoir du. Comment t'appelles ça du son industriel un peu, tu sais.
Ben
un
oui,
peu
ben
électro,
oui, ben oui. Full urbain.
Rock. Fait que j'ai quand même hâte d'entendre ça. Mais là, on va écouter un extrait de Challengers de Trent Reznor. Voyons. Trent Reznor et Atticus Ross. Voici la toune Match Point.
Imaginez-vous du tennis, là.
Oui.
Oh, yeah. Tennis.
extrait de Challengers.
Ah, si, ISM pour effet sonore. Oui. J'ai vu une vidéo de Charlie XCX qui dit qu'elle est allée voir ça au cinéma, Challengers, puis après, elle dit, maudit, j'ai aucun autocontrôle. Je suis allée clubber jusqu'à 4 heures après. Parce que ça... Mais moi, tu sais, quand je sortais du film, tu n'as pas le goût d'aller dormir, là. Ça t'a mis sur un... Tu sais, il y a le niveau de tension, mais avec la musique, ça donne aussi le goût d'aller danser.
Je trouve que ça marche avec le high de... performance dans un sport,
oui, l'adrénaline,
ouais, puis l'espèce de triangle amoureux, il y avait de la tension partout, autant amoureux que sur le court, fait que.
Puis la musique, elle rit super rapide, puis en même temps, la caméra, elle suit la balle en ralenti, là, des angles vraiment jamais vus pour un match
intense,
de tennis.
Moi,
je suis déçu de savoir que ce film-là n'a pas tant performé non plus. J'entends souvent du monde me dire que ouais, c'était correct, mais ça m'a pas tant touché ou ça, je m'attendais à plus, mais je me suis dit, moi, je ne m'attendais à rien quand je suis allé voir ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Ouais, les attentes jouent beaucoup, c'est sûr.
C'est sûr.
Mais moi, quand j'entends ça, après ça, vous me dites qu'il a fait aussi la musique de Social Network.
Oui.
Et on dirait que ça me donne envie de le réécouter pour comme...
Ben, c'est pas le... évidemment pas le même...
Non, c'est pas le même ton. Là. C'est pas Mark Zuckerberg quand il fait Facebook, on est moins là. Mais je suis quand même curieux de voir les similitudes qu'il pourrait avoir, tu sais.
Oui, il est plus... c'est plus atmosphérique. Dans le social network, puis ça va plus cibler la souffrance de Mark Zuckerberg ou comme son isolement, là, puis ça le fait bien, c'est comme avec des sons comme un peu métalliques. Tu reconnais la signature, mais vraiment plus adapté.
Il a aussi fait la musique de Soul, le film de Pixar. Okay.
Ouais.
C'est vrai, ça.
Et Girl with a Dragon Tattoo, Lost Highway. Il y en a fait pas mal.
Lost Highway.
Puis récemment, Queer aussi.
Queer récemment.
Ah, ok, ouais, ben de Luca Guadagnini.
C'est exactement ça.
Comment on
Qui a aussi fait Challengers. Fait que ça a du sens.
Exactement, voilà. Ben, il y a souvent des réalisateurs, réalisatrices qui suivent leurs compositeurs, compositrices aussi, de film en film.
Ouais.
Exact. Mais là, j'ai hâte de voir Tron avec Nine Inch Nails.
Ah, tout à fait.
Et puis là, on allait parler d'un autre... Ben là, on tombe dans la catégorie, il nous reste un peu moins de temps, mais des personnes, des réalisateurs qui ne vont pas utiliser des trames sonores originales, mais qui vont créer leur propre
playlist.
Oui, c'est ça.
Là, c'est le bon terme.
c'est ça, vraiment.
Ouais, des mixtapes. Oui. Puis on va parce qu'il y en a qui sont assez iconiques, fait qu'on va y aller avec eux.
Ouais.
Puis on va commencer avec toi, Miguel.
Ben en fait, c'est ça... Il y en a des plus iconiques que d'autres. Là. Moi, j'ai pensé beaucoup à David Lynch. Récemment, je pense beaucoup à David Lynch, évidemment. Là, on pense tous un peu à lui. Oui, puis on parlait, ben, vous disiez justement que Trent Reznor avait fait la soundtrack de Lost Highway. Ce que je ne savais pas, mais ben, ça fait un magnifique pont.
C'est ça, ça fait un très bon pont.
Mais pour un autre univers très différent musical, quand on pense à David Lynch, quand on pense à son œuvre au cinéma, on pense visuellement au rideau feutré rouge, quelque chose de très cabaret, quelque chose de très... Et puis Lynch a collaboré toute sa carrière avec Julie Cruise, qui est une artiste qui est, on peut dire, à l'opposé de la musique qu'on vient d'entendre. Là. On est vraiment, vraiment dans un autre univers. Puis juste pour dire à quel point... Une musique peut influencer un état d'esprit dans lequel on se plonge en écoutant un film, une œuvre. La chanson « Question in a World of Blue » qui est dans le film « Firewalk with Me », qui est un peu une œuvre qui accompagne la série Twin Peaks, qui est pas mal l'œuvre phare de David Lynch, à mon avis. Fait que... ben c'est sûr je propose qu'on l'écoute pas au complet parce que ça dure un 5 minutes très très vaporeux puis ça s'écoute bien avec le film aussi, donc seulement en audio je pense que c'est suffisant d'en entendre une partie pour comprendre l'état d'esprit dans lequel cette chanson nous amène.
On va écouter une partie de la chanson Questions in a Blue World. Non, juste Question in a World,
in
of,
a
blue.
World of Blue.
To
CISM, un effet sonore. On écoute de la musique de film.
J'aime
aujourd'hui.
Ça en alternance après Trent Reznor.
Eh oui, c'est tellement
ouais,
un clash.
C'est correct de faire, oui.
Alors, on voit bon, c'est quoi notre signature éclectique.
Donc, bon matin tout le monde. J'espère que la séance d'hypnose a été fructifiante pour vous. Non, mais ça témoigne vraiment d'un état d'esprit, d'un univers qui est très propre à ce film-là. Qui doit être vu. Là, si vous n'avez pas encore vu Twin Peaks, je pense que c'est un bon moment pour le commencer. Ce film-là, il accompagne la série après la deuxième saison.
Donc, saison 1 Twin Peaks, saison 2 Twin Peaks.
La saison 2 de Twin Peaks, c'est que David Lynch est parti pour aller réaliser un film de son côté.
Okay.
La série a comme été conclue par l'autre créateur de la série, qui est Mark Frost, si je ne me trompe pas. Et puis, la fin n'était comme pas concluante pour Lynch, donc il a fait ce film-là pour faire un peu sa version à lui.
Mais après ça, il est revenu avec une troisième saison, plus tard.
Oh, et puis beaucoup plus haute. Mais ah oui. En tout cas, que la saison 2, mais là, ça, c'est un autre débat. Mais donc, c'est ça, sa collaboration avec Julie Cruise qui a suivi pour plusieurs films après, puis qui a même signé son vidéoclip plus tard dans sa carrière. Donc,
mais David Lynch, on peut faire un épisode complet là-dessus, ben, mais c'est une émission de musique.
Exactement,
mais
exactement.
Un hommage aussi au passage.
Oui, oui, oui.
Un hommage au passage, puis un hommage à des créateurs qui suivent qui se servent de d'autres compositeurs, compositrices pour comme pimenter leur filmographie.
Puis, tant qu'à rendre honneur, notre prochain aussi, si on veut ben aller oui, vers hein. Là, j'ai pensé au pont. On ne peut pas parler de mixtape, de trame sonore, sans passer par Jean-Marc Vallée, qui est en plus un héros québécois.
Tu as dit mixtape tantôt, je croyais que tu allais déjà partir sur Jean-Marc Vallée.
Ben non, oui, non, ben oui. Non, je me gardais ce plaisir-là pour la fin. Dans la fin, parce qu'il y en a une autre aussi dont je veux parler, mais... Oui. Lui, c'est quand même assez incroyable, son apport, puis sa reconnaissance aussi internationale de son lien avec la musique dans ses films.
Ouais.
C'est sa signature. Puis qu'est-ce que j'aime? J'essaie de comprendre pourquoi, d'où ça sort. Mais je pense que c'est un mélomane, Jean-Marc Vallée. C'est son amour pour la musique qui est transmis à l'écran. Puis... T'sais, au-delà de juste la mettre, c'est que ses personnages aussi trippent sur la musique. T'sais. Ouais. Puis on repense à Crazy. Il y a Zach qui en écoute souvent, puis on est dans sa tête, puis on est avec lui en train d'écouter Pink Floyd ou whatever. Puis sinon aussi, dans la série Big Little Lies, c'est la petite fille qui trippe musique, puis c'est elle qui met la trame sonore de la
c'est
série.
Vrai.
Puis, tu sais, on parlait de découvrabilité. Moi, je pense Michael
Kiwanuka
n'aurait pas eu la reconnaissance ou le succès qu'il y a eu sans la série Big Little Lies.
Ah, c'est clair.
Puis oui, parce que c'est la chanson thème, non?
Mm-hmm.
C'est ça, ouais.
Puis dans Sharp Objects aussi, qui est son autre série, peut-être un petit peu moins connue, mais il y a le personnage du père de famille qui est tout le temps en train de se mettre des vinyles puis des écouteurs puis il écoute sa musique tout seul. Il y a toujours un personnage mélomane dans ses films.
Puis ça, c'était la musique d'Alessandra Strelinski.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Encore là, il a sûrement donné un tremplin incroyable. Elle a été nommée aux Oscars grâce à lui parce qu'elle a fait aussi la musique de Dallas Buyers Club.
Ouais.
Je sais pas si c'est pour celui-là, mais en tout cas, il l'a amenée aux Oscars grâce à un des films.
Je sais qu'elle est dans Sharp Objects, mais je savais pas Dallas, mais c'est...
Je pense qu'elle a composé aussi de la musique pour Dallas parce qu'il l'a amenée aux Oscars. Puis récemment, il a plus fait des séries. Là. Fait que, de mémoire, je dirais que c'est celui-là.
Je vais vérifier à l'instant. Continue.
Yes, merci.
Très récemment, il en a fait moins un petit peu, malheureusement, mais bon...
Qu'est-ce
qui est dommage, c'est qu'avant de mourir, il réalisait un film sur la vie de Yoko et John Lennon, sur l'histoire d'amour entre les deux. Puis il est mort en plein milieu.
Il a mis juste de la musique des Rolling Stones.
Ouais, peut-être. Ou juste de Paul McCartney, juste pour le déranger. Mais c'était pas les Beatles, c'était vraiment juste cette relation-là. Puis j'espère que quelqu'un va prendre le relais. Peut-être un de ses fils. Oui.
Il y a le Beatleverse bientôt qui s'en vient, non? Il y a quatre films des Beatles.
Ouais.
Ça, j'aime quand même ça, les Beatles, mais j'ai hâte de voir à quel point ils vont milquer ça. Là.
Hey, Paul Mescal en Paul McCartney, je sais pas qu'est-ce que tu peux avoir de mieux. Là.
Mais ce qui est le fun de Jean-Marc Vallée, puis je voulais pas interrompre, sur une lancée, mais souvent, quand il écrivait un film, il allait choisir une chanson qui allait être un peu sa pièce accompagnatrice du film. Puis en écrivant le film, il se base beaucoup sur cette toune-là qui va être un personnage du film, ça va être cette toune-là, puis... C'est un mélomane au point que c'est ça. Chacun de ses films a sa chanson attitrée, là, si vous l'écoutez. Là,
c'est le fils de... Parce que là, il y a aussi l'exposition mixtape, j'arrête pas de dire ce terme-là, mais qui est gratuite au Centre Phi. Moi, j'essaie d'avoir des billets en ce moment, mais je crois qu'il était disponible jusqu'en mars. Puis après ça, ils vont peut-être début mars, ouvrir les billets jusqu'au mois de mai, puis probablement que ça va être prolongé. Mais il paraît que c'est incroyable, puis t'apprends, tu sais, son rapport à la musique dans les films de Jean-Marc Vallée. Moi, j'ai eu la chance de voir aussi à Place des Arts le spectacle Hommage à Jean-Marc Vallée, où il reprenait les grands succès de ses films, tu sais, avec Barris, Martha Wainwright. C'était un meilleur show l'an passé. Puis, tu sais, tantôt, on se disait, on niaisait en disant qu'on rajoute la film. Là. Maintenant, c'est rendu qu'on ajoute la musique après le montage ou pendant le montage, pas en même temps. Mais ouais, Jean-Marc Vallée, apparemment, lui, il mettait la musique en même temps. Fait qu'il la rajoutait pas après, il la filmait dans les scènes.
Ah, pour que les acteurs...
C'est ça, pour qu'il y ait comme une cohésion sur le plateau puis que les acteurs le vivent en in vivo, là, ce qui se passe.
Qui est aussi un petit truc pour qu'il n'y ait pas le choix de l'avoir dans le résultat final. Tu sais, comme si... Si, par exemple, dans Crazy, il y a du Pink Floyd, puis ça a été quand même complexe avec les droits, la session de droits pour ça, mais là, tu vois carrément le personnage mettre un vinyle marqué, là, tu sais, c'est Dark Side of the Moon qui met, là, fait qu'est-ce que tu veux, c'est ça, là. Tu peux pas avoir une trame, t'as pas le choix d'avoir Breed, là.
Oui, c'est vrai. T'sais. Mais en même temps, quand t'as une idée de la toune, mais finalement, t'as pas les droits, faut que tu... Parce que moi, je pense aux Invincibles, quand ils ont fait la saison 3, la finale de la saison...
Still Loving You,
mais apparemment que c'était pas leur premier choix parce que leur premier choix, ils ont pas pu le libérer.
Ouais, au début, ils voulaient Si Exceptionnel.
C'est vrai?
Non.
D'André Waters.
Ah, ok, tu parles d'André. Ben non, c'est sûr que non. Non, je croyais que tu me parlais d'autre chose que je connaissais pas.
Non.
Mais pourtant, ça collait super bien à la scène.
Ben,
Je peux pas imaginer une finale autrement qu'avec Still Loving You. Lynn LaPoffin
qui chante ça. Là.
Non, mais Still Loving You, je trouve que ça fit super bien. Hey, spoiler tout le monde.
Fais-le.
Puis. Je trouvais que ça fitait super bien, puis j'étais surpris de savoir que c'était pas leur premier choix, tu sais. En tout cas, les paroles marchent exactement.
Pour encore là un pont qui se fait facilement, une autre toune iconique qui termine un film, pour moi, c'est Just Like Honey de Jesus and Mary Chain, dans le film Lost in Translation de Sofia Coppola, qui est une autre réalisatrice qui est excellente dans la sélection de ses chansons. Une autre mélomane. Elle, par exemple, je sais que ça peut être controversé, elle aime les contrastes. Fait que dans son film Marie-Antoinette, ça avait été très critiqué, son utilisation de toutes les années 2000 sur l'autre époque. Moi, c'est un des seuls de Sofia Coppola que j'ai pas vu. Les critiques sont pas bonnes. On dirait que je veux pas me ruiner mon appréciation.
Ton attachement pour Sofia,
c'est ça.
Qu'est-ce que t'as pas vu, t'as dit?
Okay. Marie-Antoinette, j'ai jamais vu.
OK.
J'ai vu Virgin Suicide, c'est avec eux que j'ai découvert Air. Puis Air aussi, les suit à travers plusieurs films. Récemment, avec Priscilla aussi, elle a vraiment choisi. Elle n'a pas juste mis des tunes d'Elvis, elle est allée chercher. Il y a du Porch qui joue dans le film de Priscilla. C'est bien amené, c'est bien fait. Elle joue avec ça,
Le contraste, c'est tellement important. C'est important qu'on en parle aussi parce que chaque règle a son contraire puis son opposé qui marche tout autant, tu sais. Fait qu'autant on peut appuyer une émotion que comme elle, on peut aller détonner puis jouer avec les appréhensions puis faire revivre, revisiter une œuvre.
Oui, t'as raison, parce qu'elle fait aussi, je parle de contraste de différence d'époque, mais elle fait aussi, dans une scène joyeuse, mettre une chanson vraiment mélancolique ou une tune super mélancolique, une scène mélancolique, puis elle met par-dessus de la musique.
Ouais, puis on dirait que ça fait juste réaffirmer la mélancolie puis la tristesse de ça, d'entendre du positif puis du bubbly puis tout ça. Puis là, tu vois le personnage qui vit quoi de dur, tu sais, c'est... C'est puissant, là, la musique.
Ouais, il paraît que c'est puissant.
Ça a l'air. Ça a
vraiment.
L'air.
Fait que Just Like Honey, ça joue à quel moment?
C'est à la fin.
OK.
Tu
parles de Lost in Translation.
Là, je suis rendue dans Lost in Translation.
Ça, je sais de quelle scène tu parles.
Oui, exact. Fait que c'est la fin, puis je sais que Miguel l'a pas vu, fait que je veux pas trop en dévoiler.
Mais une
fois que tu vas l'avoir vu, tu vas comprendre pourquoi on en parle encore 20 ans après que ce soit sorti. C'est qui?
C'est l'histoire de Bill Murray puis de Scarlett, qui est comme un peu... C'est deux amis, mais
Les deux vivent de la solitude à Tokyo. Puis là, ils se rapprochent, mais tu sais, ils ont une grosse différence d'âge. Puis c'est difficile de saisir c'est quoi la nature de leur relation. Puis à la fin, t'as comme une clé pour comprendre, mais en même temps, t'es pas sûr. Puis là, il y a cette chanson-là qui joue.
Qui explique un peu.
Puis ça va aller appuyer l'aspect dramatique, mais aussi une espèce d'entente. Tu sais, il y a quelque chose qui est inachevé, mais il y a aussi une contemplation, mais une satisfaction de ce qui s'est passé.
Une acceptation aussi.
De la tournure des événements.
Ouais.
Puis il y a comme un moment qu'on va pas dire qui fait jaser encore 20 ans plus tard entre les deux. Ouais. Puis, en trame de fond, cette magnifique chanson du groupe de shoegaze écossais, Jesus and Mary Chain. Puis moi, c'est le mariage parfait. Je pense que j'ai jamais vu là, pour du monde. J'ai jamais vu du monde comme une meilleure chanson du monde. ce mariage-là, ces deux scènes-là, est on point. 100%.
On va écouter Just Like Honey de Jesus and Mary Chain. We'll be right back.
profiter de l'émotion pure sur CISM.
Oui.
Ouais, donc je comprends que ça finit bien, ce film-là.
Tu verras.
C'est ça, c'est le...
Lost in Translation.
La personne qui regarde le film qui décide comment
oui,
ça
c'est ce genre de fin-là.
Ah, nice.
Ouais, puis il va y avoir encore là, plein de théories.
J'ai hâte à Lost in Translation 2, où ils vont tout expliquer.
Mais je pense qu'il va vraiment avoir un Lost in Translation.
Vrai?
Oui.
Ah ouais.
À moins que c'était une joke, là. Moi, je me suis fait avoir par l'Internet, là.
T'as-tu demandé à ChatGPT encore?
Non, non, j'ai pas demandé. Oui, j'ai demandé, mais il m'a pas aidé en erreur. Mais je pense que j'ai vu une annonce passer de Lost in Translation.
Ça serait bizarre de ressortir un... En tout cas, j'ai pas vu le film, donc de quoi je me mêle, mais...
Non, ça va tout gâcher s'ils font ça.
Ça semble pas être... Non, je sais pas. Ça semble pas être une réalisatrice qui veut faire des Marvel de ses films. Faire une grosse franchise Lost. Retrieved in Translation. Puis...
Ouais.
Non, non, je pense vraiment qu'il va en avoir
translation.
Un bon. Returns after two decades.
Hein? Ah, ben ça peut être intéressant. Finalement, je parle au travers de mon chapeau, puis je retourne tout ce que je viens de dire, puis finalement, je suis d'accord.
Tabarouette.
C'est tant que tu le regardes d'abord.
Je suis généralement d'accord avec Sofia Coppola, donc ça va. Je suis moins d'accord avec son père.
Ah.
Oh, Megalopolis.
C'est qui son père?
Grand. C'est pas aimé ça, Megalopolis?
Ça, ça n'existe pas, ce monsieur.
C'est ça. Okay.
Ben, pas un fan, mais bon. Non. On est dans une émission de musique, hein, fait que...
C'est vrai, c'est vrai. On va parler de cinéma ailleurs, genre dehors, tantôt, dans la neige.
Ouais, avec une top.
Ouais, avec une top. Donc, sur ce, c'était notre spécial cinéma, parce que c'est les Oscars aujourd'hui. Donc,
oui.
Tout le monde, j'espère que vous allez avoir du fun à regarder les Oscars comme moi. Sinon, comme Eliane, s'en foutre complètement puis faire autre chose.
Hey,
moi, moi je suis du bord à Eliane là-dessus pour vrai.
Ben oui, mais je sais que t'aimes pas les gars là.
Je vais demander le lendemain à ChatGPT c'était qui.
C'est exactement ça que je dis.
Y a-t-il des prestations musicales?
Ben oui, il y en a. Ils vont faire Wicked. Ils vont faire un bon. En tout cas, ils ont annoncé.
Y a-t-il Trent Reznor qui va faire Challengers avec.
Ah, serait bon qu'ils soient juste derrière un
DJ. Ça, c'est dans l'after party des Oscars.
C'est plus petit. Peut-être le pickleball, ça fonctionnerait plus que du tennis. Là, je vais l'écouter, c'est sûr.
Bon.
Okay. Squash.
En tout cas, bon, ben c'est ça. Ça, c'était notre spécial musique de cinéma avec mon ami Miguel. Merci d'avoir été là.
Hey, ça me fait plaisir, mon ami Jean.
Tu reviendras
quand? Ma nouvelle amie Eliane.
Oui, enchanté. C'était Allô. Vraiment plaisant.
Enchanté, comment ça va?
Parce qu'il va falloir parler de comédie musicale à un moment donné. On,
oui,
ben, c'est
pour
ça.
Pour l'évoquer, là, on n'en a pas parlé.
On fera un spécial Québec aussi. Pour
spécial
avoir
de... Annette. Moi, oui. je serais bien
Juste
d'accord.
Annette.
Là. Être invité dans une émission, pas parler d'Annette, pour moi, là, c'est dur. Puis je ne l'ai pas fait parce que j'ai plus vient de parler d'Annette.
Ben, on finit là-dessus quand même.
Yes!
Ben, merci d'avoir été là.
Mission accomplie.
Voyons, écoutez-nous la semaine prochaine. On y aura un autre épisode d'Effet sonore spécial métal féminin avec Jolène. Donc, soyez là. Merci, bonne soirée.
Ouais.